Bon, donc on va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a vu jusqu'à maintenant, et on a vu l'œuvre du Saint-Esprit, c'est sûr, dans l'histoire du salut. On fait ce qu'on appelle la théologie biblique, là, c'est-à-dire vraiment l'histoire du salut progressivement, telle qui est écrite dans la Bible. OK? Et puis, on a vu l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Okay, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on va commencer à ce que. On est rendu à la leçon 5, hein, c'est ça? Donc, on a quand même encore 8 autres leçons. Et puis, on va les voir. C'est vaste dans le Saint-Esprit, tout ce que son œuvre dans le Nouveau Testament. Mais on va quand même faire un petit résumé. Donc, l'Esprit agit de la création aussi. Nous l'avons vu, il donne la vie, soutient. Renouvelle la terre dans Genèse 1, 2. On a vu plusieurs versets, hein, plusieurs passages. Psaume 104, 30 aussi. Il inspire les auteurs bibliques du Nouveau, de l'Ancien Testament aussi. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre là. Donc David, les prophètes et les sages parlent sous la direction. On voit ça dans 2 Samuel, Marc. Il inspire les auteurs bibliques. Il équipe certaines personnes. Dans l'Ancien Testament, toujours. Les artisans, vous vous rappelez l'Exode pour construire le tabernacle, le Saint-Esprit est sur ces gens-là, spécifiques pour construire ce que va devenir vraiment comment je peux dire, le tabernacle, la présence de Dieu parmi son peuple. OK?
Donc, on le voit dans les dirigeants. Quand on parle des dirigeants, c'est qui? Un des dirigeants qu'on connaît très bien, qui a dirigé son peuple. On peut parler des dirigeants aussi, Abraham aussi.
Mais Moïse et Josué, qui a suivi si on peut dire, son ministère, ou son rôle, les juges, vous vous rappelez la période des juges aussi, les rois. Donc, on a vu tout ça. Le Saint-Esprit est là, il dirige ces gens-là. Il a une œuvre à accomplir sur ces gens-là, un peu en arrière-plan, mais il est à l'œuvre. Prophète. Pour transmettre la parole des dieux. Bon, on l'a vu, surtout dans la royauté. Hein. On voit les prophètes qui exhortent des fois les rois qui sont corrompus, okay, même pour annoncer des bonnes. Un exemple, c'est Daniel qui annonce des bonnes nouvelles. Les prophètes, on l'a vu ici, annonçant la nouvelle alliance, la venue du Saint-Esprit. Donc, son action est donc sélective dans l'Ancien Testament, temporaire. Il y a un appel particulier. C'est ça? Temporaire dans son ensemble. Hein? Parce qu'on croit probablement que quand même, dans l'Ancien Testament, probablement, et moi, personnellement, je le vois, dans la vie de David, peut-être il a resté toute sa vie, depuis qu'il a été oint comme roi, le Saint-Esprit, d'après moi, il est resté toute sa vie jusqu'à sa mort. Mais de façon permanente sur le peuple, non, ce n'est pas le cas. On a vu ici des limites et attentes dans l'Ancien Testament en ce qui concerne l'Esprit. En fait. L'Esprit n'habite pas encore sur tout le peuple. Israël reste infidèle malgré les interventions de Dieu par les prophètes. Je suis en train de juste faire un résumé de ce qu'on a vu à date, là. Moïse exprime le souhait que tout le peuple reçoive l'Esprit. Vous vous rappelez, c'est quand ça? Le choix des 70, oui, c'est ça. Donc, il aimerait vraiment, il dit, j'aimerais vraiment, parce qu'il y en a qui disent, hey, ils sont en train de profiter, il faut que tu ailles voir ça. Mais Moïse dit, j'aimerais un jour que vous puissiez tous avoir de cet esprit. Et de cette façon, il s'est pas trompé, hein, Dieu a fait en sorte que maintenant, dans la nouvelle alliance, tous ceux qui croient en Dieu ont le Saint-Esprit en eux. Cette attente prépare la promesse d'un renouvellement intérieur et collectif. C'est encore là l'œuvre du Saint-Esprit. Mais on a vu ici la promesse qui a été faite du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament vers la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance vers la Nouvelle Alliance. Ou l'Ancien Testament, comme on dit dans nos Bibles, le Nouveau Testament. Joël, c'est cité dans Actes par l'apôtre Pierre. L'Esprit sera répandu sur toute chair, homme, femme, tous, même les serviteurs, il dit. Donc, c'est la promesse du Saint-Esprit. Dans Ésaïe, l'Esprit est comme une pluie féconde, apportera justice, paix et bénédiction. On a vu plusieurs passages dans ce qu'on a vu jusqu'à date là, dans les leçons antérieures. On a vu tout ça. Et Ézéchiel, dans le chapitre 36, Dieu promet un cœur nouveau, un esprit en nous, source d'obéissance et de pureté. Okay? Donc, un cœur nouveau par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est des choses qui s'en viennent dans la Nouvelle Alliance. Jérémie, c'est lui qui utilise vraiment ce langage, la Nouvelle Alliance, une Nouvelle Alliance où la loi est écrite dans nos cœurs, la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Ça, c'est bon, à date. Puis, Zacharie aussi, il prophétise par rapport à l'Esprit et l'Esprit conduit à la repentance et à la grâce aussi. Qui sont, selon l'Ancien Testament, les bénéficiaires de ces promesses faites par les... Mais il y a une promesse, la promesse du Saint-Esprit, mais ces promesses-là qu'on a vues par les prophètes. Donc, il y a le reste, un reste fidèle d'Israël, Ésaïe en parle, Michée aussi en parle de ce petit reste. Qui est ce reste? Celui qui revient de l'exil, Esdras, Néhémie. Puis le reste qui reste encore et jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus. Okay. Il y a quand même un reste. Hein. C'est vrai, et on va le voir aujourd'hui, c'est vrai que Jésus a eu l'opposition à son ministère, pas seulement Jésus, hein. Qui a vécu l'opposition, là? Jean-Baptiste aussi. Donc, il était mis à mort même avant le ministère de Jésus. Donc, il va avoir un petit reste et qui va rester fidèle à Dieu. On peut considérer, nous, l'Église aussi, comme sortie de ce petit reste d'Israël. Donc, le serviteur du Seigneur, le Messie, qui parle, Ésaïe, dans 42, très clairement, dans 61 aussi, Ésaïe chapitre 61, 1, on l'a vu, 42, 1 aussi, ce qu'on appelle des fois les chants de serviteurs, là, dans plusieurs passages, plusieurs chapitres du prophète Ésaïe. Donc on a vu le serviteur rempli de l'esprit, il accomplit parfaitement la mission qu'Israël a échoué à remplir. Par lui, par ces messies-là, le don de l'Esprit s'ouvrira à toutes les nations, disponible à toutes les nations. Amos y en parle, Ésaïe aussi. Donc, en conclusion, l'Ancien Testament révèle que l'Esprit donne la vie, la sagesse, la force. On l'a vu dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi la promesse de l'Esprit intérieur, un travail intérieur, de renouvellement, on peut dire de régénération, universelle même, pour tous, c'est disponible pour tous. Dans ce cas-là, pour nous, c'est pour toute l'Église. Et permanent. Tout cela reste à venir dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit aujourd'hui, Jésus, le serviteur, qui est aussi le Messie, promis, réalise cette promesse. Il reçoit l'Esprit, dans Luc 4, 18, puis on le voit aussi dans les autres synoptiques, les autres évangiles, et dans l'Évangile selon Jean, il en parle aussi. Il reçoit l'Esprit, et il baptise de l'Esprit aussi. Quand on voit dans Jean 1, puis aussi dans Acte 2. Puis Luc en parle aussi de ce baptême de l'Esprit qu'on va voir aujourd'hui. C'est bon? Donc, on commence de cette façon-là l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Donc, pour étudier l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, on pourrait voir tous les livres, okay, de façon chronologique. Là. On va commencer peut-être par les évangiles, les quatre évangiles. Des fois, je me trompe, les cinq évangiles, je me trompe avec... Des fois, je dis les cinq évangiles, il y a quatre. Des fois, je me trompe avec les Pentateuques. Ça, c'est cinq, les premiers. Mais c'est ça. Et on va commencer par, de façon progressive... les évangiles. Déjà le Nouveau Testament, dans ce qu'on voit, c'est progressif. Hein? Donc, il nous montre toute la vie de Jésus dans les évangiles. Après l'évangile selon Jean, on voit quoi? Quel livre? Les actes. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans les actes? C'est l'Église qui est née là. Dans Acte 2. C'est ça, la Pentecôte qu'on appelle. Donc, on va le voir aussi.
pas aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, un peu, on va toucher ces sujets-là. Et puis, après, on voit quoi? On voit les épîtres. Okay? Les épîtres écrites par, en majorité, par l'apôtre Paul, mais il y en a d'autres qui ont écrit des épîtres-là. Et si vous faites une recherche et en ce qui concerne l'esprit, okay, l'œuvre de l'esprit dans le Nouveau Testament, et c'est sûr que vous allez trouver dans presque tous les livres du Nouveau Testament, mais dans tous les livres du Nouveau Testament. Mais il y en a qui se démarquent hein, en ce qui concerne cette œuvre-là. Okay? Et puis, si vous lisez, mais vous avez sûrement lu le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, l'Esprit est vraiment présent là. Okay? Puis, on voit son œuvre, on voit son travail. Mais dans les actes des apôtres, il y en a qui ont voulu changer, et au lieu des actes des apôtres, ça devrait s'appeler les actes du Saint-Esprit. Et c'est vrai, il parle, il dirige, en tout cas, quand vous allez lire les actes des apôtres, vous allez voir son rôle. Mais, dans un premier temps, on va se concentrer, on va quand même, dans notre étude, en ce qui concerne le Nouveau Testament, on va quand même se promener un peu dans le Nouveau Testament, mais on va se concentrer surtout dans un premier temps sur l'évangile de Luc, ok, et l'évangile de Jean. Pourquoi? Ils ont quand même un enseignement particulier en ce qui concerne l'esprit, et ça nous aide beaucoup dans l'étude que nous faisons en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit, ok. Et c'est vrai que les autres évangiles on peut les étudier, mais il y a des choses qui sont complémentaires à notre étude, surtout dans l'Évangile selon Luc. Et pour ceux qui ont déjà lu, vous avez tous lu les Évangiles, hein, ok, mais des fois on oublie. Moi, je lis très vite. Hein, il faut que je revienne souvent. Donc, vous avez rendu compte, ok, qu'il y a quand même une différence entre même les évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et aussi dans l'évangile selon Jean. Mais nous allons nous concentrer surtout sur l'évangile dans son premier temps, selon Luc, et après on va étudier aussi en ce qui concerne l'évangile selon Jean. Ok? Donc je vous propose, dans ce sens-là, l'étude aujourd'hui, Luc et Jean. Ce sont les deux évangiles qui mettent le plus en valeur l'action, l'œuvre, le rôle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Jean présente la promesse du don de l'Esprit liée à la Nouvelle Alliance. Okay? Vous rappelez, vous avez déjà vu quand Jésus parle avec ses disciples, puis qu'est-ce qu'il dit qu'il va envoyer qui? Le Consolateur, puis il y a tout, je pense que du 14 au 16, chapitre 14 au 16, il y a tout un enseignement en ce qui concerne l'œuvre de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance. Donc on va voir un peu ça, mais après, mais dans un premier temps, comme j'ai dit, on va voir l'Évangile selon Luc. Luc insiste sur le baptême dans l'Esprit, annoncé par Jésus. Thème central dans son Évangile et dans les actes. Parce qu'on sait que c'est Luc qui a écrit l'Évangile selon Luc et les Actes. C'est beau, et c'est vraiment beau l'histoire, et ça se suit. Puis aussi le thème de l'Esprit, ça se suit beaucoup dans les deux livres de Luc, dans Luc et dans les Actes des Apôtres. Donc on va le voir de cette façon-là. Et ensemble, c'est-à-dire Luc et Jean, ils annoncent la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Pas question d'examen, c'est pas une question piège. C'est quoi la Pentecôte? Qu'est-ce qui arrive à la Pentecôte? Oui, la venue du Saint-Esprit qui a été promis depuis des centaines d'années auparavant par les prophètes. Et qu'est-ce qui arrive à la Pentecôte aussi? La naissance de l'Église, le nouveau peuple de Dieu, d'Israël, des dieux, comme Paul en parle. Luc met l'accent sur l'action de l'Esprit, ok, et dans la mission, sa puissance. Nous allons trouver beaucoup, là, dans les Actes des Apôtres, on va trouver beaucoup cette expression, la puissance de l'Esprit. Jean souligne la présence intérieure de l'Esprit, donnée dans la Nouvelle Alliance. Vous vous rappelez l'entretien on l'a étudié, on est en train même d'étudier l'évangile selon Jean dans nos prédications, dans nos messages de dimanche. Vous vous rappelez l'entretien de Jésus avec Nicodème? Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans le royaume? Il faut renaître de nouveau. Et par l'esprit, mais naître d'en haut. Étudier donc les écrits séparément, c'est-à-dire Jean et Luc, permet de saisir les accents particuliers en ce qui concerne encore notre étude. Donc, il n'y en a pas que les évangiles. Hein. Comme j'ai dit, il y a aussi l'apôtre Paul qui complète les enseignements de Luc et Jean aussi. Il développe la dimension théologique du baptême dans l'esprit et la vie nouvelle en Christ. OK? Paul mentionne beaucoup le travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Okay? L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. On va aussi le voir. Donc, il est important, par contre, de tenir compte de tous les auteurs du Nouveau Testament. Comme je viens de dire, chacun apporte une perspective particulière en ce qui concerne l'étude du Saint-Esprit. Et nous devons aussi chercher à comprendre comment leurs enseignements s'accordent entre eux pour former un message cohérent, OK, sur l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de la révélation biblique, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je ne veux pas juste me concentrer, je ne veux pas dire que seulement Luc et Acte et Jean enseignent sur le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. Non, mais il y a des choses importantes qu'on peut retenir, il y a des thèmes qu'on va voir dans ces deux évangiles et dans les autres aussi. C'est bon, donc nous allons commencer par l'évangile selon Luc, en abordant d'abord l'œuvre de l'Esprit avant le début du ministère de Jésus. Avant. Luc est vraiment particulier, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc. On va se promener un peu dans Luc, puis dans d'autres six livres, mais... Donc on va se concentrer maintenant dans l'œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit, avant le ministère de Jésus. Quand on parle du ministère de Jésus... Et on le voit clairement dans tous les évangiles. Hein? On voit clairement que son ministère commence quand? Depuis qu'il est né? Après son baptême, c'est ça? On voit son ministère public. Après son baptême, on voit que... Mais avant son baptême, donc quel âge avait Jésus quand il a commencé son ministère? Mais en réalité, on ne sait pas. Mais peut-être il était dans la trentaine, là, c'est ça, là, mais... On dit qu'il y en a qui disent, hein, à 33, le Seigneur Jésus est mort. Je ne sais pas si c'est 33 exactement, mais dans la trentaine, okay, 33 ans, tout le monde s'accorde pour dire ça. Mais on va voir l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est déjà dans la Nouvelle Alliance avant le ministère de Jésus? Mais pourtant, on est en train, c'est dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas encore hein, la Nouvelle Alliance. Mais c'est la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, on en parle. Mais on est encore dans cette période-là, entre l'Ancien et entre la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire marquée par le début de l'Église, OK? Mais il y a l'entre, c'est-à-dire le ministère de Jésus. Et même, j'irai un peu plus loin, c'est avant même le ministère de Jésus. Et avant le ministère de Jésus, vient tout ce que Luc écrit, pas longtemps avant sa naissance, mais on peut considérer même les autres écrits avant le... Mais il y a un silence à peu près des 300 ans là, après le retour de l'exil. Là. Il n'y a pas eu de révélation, si on peut dire. Il n'y a pas eu des livres qui ont été écrits pendant cette période-là. Il n'y a pas eu des prophéties non plus. En tout cas, on ne le voit pas. Okay? On ne le voit pas dans les écrits. Là. Ça s'arrête jusqu'à Néhémie. Okay? Puis après, on ne voit pas d'autres choses, on ne voit pas d'autres prophètes, mettons. Mais Luc, j'aime Luc, parce que quand vous lisez Luc, si vous avez lu l'Ancien Testament, quand vous lisez Luc, on dirait que vous, tout repart, OK? En ce qui concerne les prophéties et tout ça. Vous vous rappelez quand le peuple était comme désobéissant, et à un moment donné, il y avait comme une réforme, puis le Saint-Esprit dirigeait les prophètes. Puis, des fois, il y avait comme un réveil, c'est ça, vous vous rappelez, ou même le Saint-Esprit a dirigé le retour de l'exil, puis on dirait tout repart. Puis, lors de l'exil aussi, on voit Josué, on voit Zorobabel aussi, qui est là, dirigé tous par l'Esprit de Dieu. Puis on voit ce réveil-là, puis c'est des bonnes nouvelles, en tout cas. Il y a l'espoir. Et quand on lit Luc aussi, c'est la même impression que nous avons. En tout cas, moi, personnellement, je vois cette même impression. Donc, Luc souligne l'action de l'Esprit. Okay? C'est un aspect unique parmi les auteurs du Nouveau Testament en ce qui concerne l'Évangile de Luc. Pourtant, on lit beaucoup et les synoptiques qu'on appelle les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on dit, wow, ils ressemblent beaucoup. Et c'est vrai. Des fois, on dirait des copies-collées. Vous savez, quand vous lisez Matthieu, Marc et Luc, là, on dirait des copies-collées. On dirait qu'il y a un peu la même source. Ça se peut, oui, ça se peut. On ne sait pas, mais oui, on peut croire qu'il y avait la même source. On est allé chercher l'information. Vous savez, les Juifs aimaient beaucoup écrire, hein, avoir des, comment on appelle ça, là, le mot m'échappe, des descendances, des généalogies, c'est ça. Est-ce qu'ils ont arrêté de faire ça maintenant? Je ne sais pas, peut-être pas, moi je ne connais pas vraiment la vie des Juifs ici, peut-être oui. Peut-être qu'il continue un peu. Mais une chose est claire, que Luc nous donne des indices comme quoi il continue. Nous allons mentionner tantôt Anne. OK? Puis il mentionne vraiment de quelle tribu elle vient. Donc on dirait que les Juifs ont continué avec cette coutume-là, de continuer les généalogies. D'ailleurs, quand on voit le chapitre 1, qui est aussi spécial dans Matthieu, il nous montre quoi? Toute la généalogie. Puis c'est beau de voir comment, dans son plan, Dieu a pourvu comment je peux dire, la descendance. Il a accompli sa promesse jusqu'à Jésus. Donc, cette action, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit, se manifeste chez plusieurs personnages dans Luc. D'ailleurs, un des premiers, c'est Jean-Baptiste. Et il y a Élisabeth aussi. Qui est Élisabeth? Qui est Élisabeth? Question d'examen. Zacharie. Il va y avoir un examen à la fin, hein, c'est ça? Non? Oui, Zacharie, oui. Marie, la mère de Jésus. Siméon. OK? Vous vous rappelez Siméon? On va s'en rappeler tantôt. Et Anne aussi. Anne, la prophétesse. Donc on va voir donc l'œuvre du Saint-Esprit. Jean-Baptiste est rempli de l'Esprit dès le sein maternel. C'est spécial, hein? Dans Luc 1:15, vous voyez dans votre Bible aussi, il dit « Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Ça, c'est, je pense que c'est le seul qu'on dans les Écritures, on voit ça, à part mais dans les Écritures. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a eu d'autres? Probablement, et moi je peux dire non, probablement, mais en tout cas, quand je vois la Bible, je vois pas un autre qui est comme... D'ailleurs, c'est Jésus qui dit, hein, il fait éloge de la grandeur de Jean-Baptiste. On va le voir tantôt. Le témoignage de Jésus en ce qui concerne Jean-Baptiste, sa vie, son ministère. Donc, il dit, il sera rempli de l'Esprit Saint, de le Saint de sa mère. C'est-à-dire quoi, de le Saint de sa mère? Depuis ça? Même sa conception, là. Il est vraiment rempli de l'Esprit. En tout cas, c'est pas comment ça a été fait, mais c'est Dieu qui a fait ça. Mais on a le témoignage de la parole de Dieu qui parle par rapport à Jean. Donc, cette plénitude exprime une consécration spéciale à Dieu, semblable à celle des prophètes. Comme qui? D'ailleurs, Jean-Baptiste est comparé à Élie. Non? Donc d'ailleurs, il dit que l'Ancien Testament, les prophètes disent qu'Élie va revenir. Vous vous rappelez qu'ils ont demandé même à Jésus si Élie est déjà venu. Donc on va le voir tantôt dans ce qui est annoncé par rapport à Jean-Baptiste. Mais l'Esprit, une consécration. Vous rappelez la vie de Jean-Baptiste, il vivait où, là? Avec ses parents, dans son petit condo? Il vivait où, là? Jean-Baptiste? Dans le désert, il mangeait quoi? Waouh! Spécial, il est vraiment consacré pour un ministère spécifique. Donc l'Esprit prépare Jean-Baptiste pour la tâche qu'il devait accomplir. Luc 1, 17. Vous avez vos Bibles, vous l'avez ici aussi. Donc des fois c'est bon, comme je répète toujours, comparer des mots. Des fois ça nous aide dans notre étude. Donc il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Voilà ce qu'il dit là. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même un peuple, un reste, hein, c'est ça? Pour préparer un peuple bien disposé. Il y avait quand même un reste encore dans la période avant Jésus. Qui étaient des gens pieux. Peut-être même plus de ce qu'on va lire maintenant, mais il y en avait. Préparer les cœurs. Il prêchait quoi, Jean-Baptiste? La repentance. Répentez-vous, il disait. Donc, une telle vocation implique quoi? Une œuvre intérieure. Des sanctifications, il fallait voir le témoignage aussi de Jean-Baptiste. Et des régénérations. Il a exhorté qui, là? Jean-Baptiste, tu fais pas bien ce que tu fais, t'es en train, à qui à exhorter lui là? C'est à cause qu'il a perdu la tête. Hérode, c'est ça. Donc, c'est une œuvre de sanctification intérieure, régénération opérée par qui? Par l'Esprit, dès avant sa naissance. Quelqu'un pourrait lire Luc 27 à 28, 7, 27 à 28? Luc 7, 27 à 28. Ça, c'est le témoignage de Jésus, en ce qui concerne Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Oui, vas-y.
La pluie est tombée.
Non, Luc 7, 26 à 28. Ça se peut que je me trompe, hein? Vous allez me corriger si jamais... Cette fois-là, non? Merci, Patrick. Mais ce n'est pas moi qui s'est trompé l'ordinateur, des fois. Vous connaissez tous les ordinateurs. Ils ne sont pas fiables. Mais je vais les lire. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète parle de qui? Des Jean-Baptiste. Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète, il dit Jésus. C'est celui, donc, il est écrit... Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Qui dit ça? Jésus. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il le lève, puis après, il dit le plus petit est plus grand que lui. C'est un peu confusant, les paroles. Mais il dit, celui qui est né des femmes... Il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. En fait, Luc est en train de citer Malachie 3.1, parlant de ce messager et Jean-Baptiste. Voici, moi-même, je vous enverrai. Vous voyez ce qu'il dit? Luc cite Malachie, OK? Mais regardez ce que Malachie dit exactement dans Malachie 3.1. Ou dans votre 8 secondes, ça peut être 4, 5 à 6. Chapitre 4, 5 à 6. La colombe, chapitre 3, 23 à 24. Il dit, voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, dit, avant la venue, jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères et leurs fils, et le cœur des fils à leurs pères, des peurs que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il ramènera les cœurs des pères et leurs fils, et le cœur des fils à leur père. De qui est en train de parler Malachie? C'est vraiment de ce Jean-Baptiste que Luc cite. Donc le ministère de Jean-Baptiste, c'était important. C'est par l'Esprit Saint qu'il a été comme équipé pour ces ministères d'annoncer, de préparer les chemins aux serviteurs qui annonçaient les prophètes. Donc on voit l'œuvre du Saint-Esprit avant le ministère de Jésus, spécialement dans la vie de, dans le ministère de Jean-Baptiste. Mais regardons ce que Luc aussi nous dit d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Donc, on peut lire peut-être de Luc 1, 41-45. Élisabeth est remplie l'esprit, il prononça des paroles inspirées pour accueillir Marie, la future mère de Jésus. Vous vous rappelez un peu la scène, ok? Donc, quand Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, voit Marie venir, et voilà un chant qui éclate là par le Saint-Esprit. Luc 1, 41-45. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut, qu'est-ce qu'on lit là-dessus? Il fut rempli d'Esprit Saint et s'écria à une voix forte. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. De qui il parle? De Jésus. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Oh pardon, je ne l'avais pas affiché là. C'est ça, c'est ce qu'on lit dans 41 à 45. Qu'est-ce que vous voyez dans ce que Élisabeth exprime. De un, il dit, elle est poussée par le Saint-Esprit. C'est ça? Elle prononce ces mots-là. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que Élisabeth parle? Oui, José. Oh, waouh, c'est vrai, c'est bon ça. C'est pas par l'émotion que Élisabeth parle. Hein. C'est pas juste une émotion. Oui, on est des gens émotionnels. OK? Il y en a qui sont moins émotionnels. Moi, je suis très, très émotif, moi, des fois, pour ceux qui me connaissent. Il y en a qui sont plus... mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des sentiments. On ne sait plus... comment je peux dire ça, là? Plus quoi? Pas introverti, mais... Stoïque, merci, ma soeur. Huguette, c'est ça. Mais, oui, il y a l'émotion. Mais surtout, ce que José dit, ça l'a été révélé. C'est vrai qu'est-ce qui est arrivé. Et il dit, c'est l'Esprit Saint qui l'a rempli aussi. Puis il y a une autre chose aussi, il reconnaît. Jésus n'est même pas né encore. Puis il le reconnaît comme qui? Comme mon Seigneur, il dit. Mon Seigneur. Avant même sa naissance. Et il dit que l'enfant à l'intérieur tressaille. Et d'allégresse, de joie par l'Esprit. On va le voir dans les épîtres, dans la joie qui apporte l'Esprit Saint. Élisabeth attribue le foie. Est-ce qu'il a tressailli? Est-ce qu'il a bougé? Je ne sais pas, moi. Peut-être, oui. Il l'a senti dans son enfant. Mais il attribue ça à la rencontre avec Marie. Spécial, oui, c'est spécial. Oui, c'est ça. Élisabeth proclame, heureuse celle qui a cru. C'est ça? A cru à quoi? Aux promesses. C'est ça? À l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. À quoi elle fait référence, Élisabeth? Qu'est-ce qui a été dit de la part du Seigneur? C'est ce que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament. Tout concorde, hein? Tout concorde. La Bible est toute une histoire qui a du sens. Tout concorde. Et c'est magnifique, vraiment. En étudiant, c'est magnifique de voir vraiment l'œuvre, pas juste l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu dans le plan du salut. C'est, quand je suis en train d'étudier ça, c'est vrai, encore là je reviens, c'est très théorique, théologique, mais essayons d'en tirer de quelque chose de spirituel dans ce que nous sommes en train de lire. Et nous avons tous l'Esprit de Dieu, ok? Et nous pouvons voir, être admiré de l'œuvre de Dieu. C'est ça l'avantage que nous avons. Ok? que nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus, que le Saint-Esprit va chercher le plus profond de qui, là? De nous? Oui, mais de qui d'autre? De Dieu lui-même. Il va chercher des choses, des vérités de Dieu lui-même. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça dans nos vies. Ça, c'est une nouveauté, hein, pour nous, la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que je crois que Jésus, il dit, oui, il y a parmi les hommes, okay, il y en a plus grand, mais dans le royaume des dieux, est le plus petit et le plus, est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que nous avons toute une... Pas parce qu'on le mérite, encore là, par grâce. Okay, nous avons été pardonnés à Jésus. Et Jean-Baptiste n'a pas été témoin de la crucifixion de Jésus, son sacrifice. Non, et Jean-Baptiste n'a pas vécu ça. Pourtant, il est grand, là. Mais nous sommes privilégiés. Jean-Baptiste, ok, moi je veux dire une chose, mais c'est pas une hérésie. Hein. Jean-Baptiste n'est pas comme... il pourrait pas dire, mais il est... Est-ce que Jean-Baptiste a été sauvé, d'après vous? Oui, mais oui, il est sauvé. Ok? Il est dans l'ancienne alliance. Tous ceux qui ont été sauvés dans l'ancienne alliance sont sauvés par la foi. Ok? En l'espoir du Christ. Même les prophètes. Ok? Mais tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège d'être appelé quoi? Enfant de Dieu. Ça, Jean-Baptiste n'a pas vécu. Ok? Dans l'histoire du salut. Mais il est enfant de Dieu. Il est aussi, comment je peux dire ça là? Il est aussi croyant, il est aussi sauvé. Mais il y a des privilèges qu'il n'a pas vus, lui. Ok? Comme nous. Nous avons été sauvés. Comme les anges, des fois. Les anges plongent leur regard sur cette histoire du salut. Et Pierre en parle, c'est ça? Mais les anges ne pourront jamais chanter Jésus m'a sauvé. C'est vrai? Ils ne pourront pas. Mais ils sont admirés de ce plan, cette œuvre, ce salut de la part de Dieu envers des pécheurs. Et ça diminue rien le rôle des anges. Les anges, c'est des hommes, des êtres célestes, privilégiés, ils sont dans la présence de Dieu. Mais nous aussi, nous avons des privilèges. Par sa grâce. Je ne suis pas en train de me, comment dire, un bon québécois, de péter les bretelles. Non. Mais c'est par la grâce que nous avons tous ces bénédictions en Jésus. Donc, c'est ce qu'on peut peut-être voir dans ce que Élisabeth en parle. Donc, regardons ce que Luc nous dit de Zacharie. Qui est Zacharie? C'est son mari. Qui est son mari? Donc, c'est le père à Jean-Baptiste. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit, s'est mis à prophétiser. Et voyez le rôle, l'œuvre du Saint-Esprit dans la prophétie. Ok, le ministère prophétique du Saint-Esprit au début, même avant la venue du Seigneur, vous voyez un peu à la manière de l'Ancien Testament. C'est ça que je trouve magnifique quand on découvre ça, comment Dieu a travaillé dans toute l'histoire, dans Zacharie. Donc, nous allons lire maintenant Luc 67 à 79. C'est long, hein? Chapitre 1. Quelqu'un qui pourrait les lire? Tout un passage là et toute une déclaration prophétique de Zacharie. Quand vous lisez, des fois dans l'Ancien Testament, j'ai déjà lu, il y a des psaumes qui nous font un résumé de l'histoire, c'est ça? Un résumé de l'histoire biblique. Vous allez voir, là, il commence, Abraham et tout ça, le peuple, il nous fait un résumé. Et là, on voit wow, toute la... jusqu'à... le psalmiste jusqu'à ce jour-là. Mais maintenant, Zacharie est en train de faire la même chose. Il nous donne toute une progressive. Et il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Je ne sais pas si vous avez retenu quelques-uns, là, mais il y a plusieurs éléments importants en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut, dans ce que Zacharie prophétise, là, en fait. Est-ce qu'il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit au début? Oui, hein? Rempli du Saint-Esprit, je crois. C'est ça? Oui, encore là, la même chose que Élisabeth. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ça? Il était sacrificateur. Et puis, c'était ce temps-là qu'il fallait qu'il se présente pour donner quoi? Faire les parfums, c'est ça? Il rentre dans... vous allez lire l'histoire, là. Mais oui, c'était son ministère. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? plusieurs choses, je crois, vous avez lu là. Il annonce que Dieu accompli par Jésus, il annonce ce que Dieu a accompli. Il montre que Dieu est fidèle à ses promesses, ok, et qu'il vient sauver son peuple même. Par l'action du Saint-Esprit, le peuple est appelé à servir Dieu avec un cœur pur et à recevoir le pardon des péchés. Là, il est en train de vraiment voir et citer Jérémie même. Ce sont des paroles des prophètes. Enfin, l'Esprit éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, il dit, et il les guide par la paix, vers la paix et la vie nouvelle en Jésus. On pourrait encore en parler, dire d'autres choses. Je ne sais pas ce que vous avez retenu. Levez la main si vous voulez apporter quelque chose que vous avez retenu en ce qui concerne Zacharie. Il y a plusieurs choses. Il parle de Jean-Baptiste, son ministère aussi. Il parle de Jésus aussi. Oui. Oui. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Qui parle des ténèbres dans le premier chapitre? C'est Jean, justement. Hein? Jean, justement, fait la différence entre la lumière, Jésus est la lumière du monde, et les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres. Donc, regardons maintenant le cantique de Marie, la mère de Jésus, lorsqu'elle rend visite à Élisabeth. On l'a vu tantôt, Marie s'est proche d'Élisabeth, mais on va voir aussi que Marie réagit à cette rencontre-là. OK? L'œuvre du Saint-Esprit. Et tout ça encore avant le ministère de Jésus. Marie, mère de Jésus, réagit en récitant un cantique pour le Dieu de la grâce qu'il lui avait faite. À elle et à son peuple. On appelle ça le Magnificat, on l'appelle à cause des paroles qu'elle prononce au début. Et c'est ce nom qu'on a donné à ces cantiques-là. Il est constitué presque uniquement des allusions et des citations, un peu comme Zacharie aussi, de l'Ancien Testament. Donc ça, on le trouve dans Luc 46 à 55. C'est intéressant, je vais le lire. Et Marie dit, « Mon âme exalte », c'est ça le mot, l'exalte, c'est le magnificat, on a dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront, « Bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. » Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge aux ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Là, c'est encore en train de faire un peu un résumé. Hein. Il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissances de leur trône, élevé les humbles, rassasié des biens les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et il parle d'Israël, le serviteur, un peu comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, il prend encore des paroles des prophètes, là. Là, je me suis perdu, là, maintenant. Son serviteur, c'est ça. Et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Encore là, tout un cantique de la part de Marie. C'est là que je vois là, que Marie aussi fait partie de ce petit reste pieux qui attend, on va le voir encore avec ce que Siméon en parle, qui attend la consolation de son peuple. Rapidement, le cantique de Marie comporte des similarités avec le cantique de qui? Souvent on fait un peu des comparaisons avec Anne, hein? Anne, une femme pieuse aussi. Donc l'Esprit en Marie suscite la louange véritable, centrée sur Dieu et non sur l'homme. On voit particulièrement comment elle se reconnaît, hein, comme une servante. Et elle se considère aussi, comme je l'ai dit tantôt, comme la partie intégrante du petit reste pieux, qui avait servi l'Éternel. Elle confirme la fidélité des dieux dans son plan. Dieu faisait miséricorde à Abraham aussi et à sa prospérité. Marie savait que la naissance de l'enfant serait l'accomplissement des promesses faites précédemment à Abraham, à son peuple et même dans tout ce qu'on lit dans les prophètes. Oui, Pierre. Merci. Oui. Et c'est un bon point, Pierre, parce que qui fait ce travail-là dans la vie de quelqu'un? Qui fait ça? Et la personne qui fasse au message de l'Évangile, il est touché, il a besoin d'être sauvé. Qui fait ce travail-là? La personne elle-même? C'est Dieu, mais par son esprit. Il convainc de péché. C'est ça. Mais on voit vraiment dans ce que Marie mentionne. Là. Donc, le cantique de Marie s'est inséré dans l'œuvre du Saint-Esprit, à l'œuvre dans l'histoire du salut. Okay? Avant même le ministère de Jésus, le texte ne dit pas que Marie fut remplie de l'Esprit. Okay? On voit tous les autres, hein? Mais dans le cas de Marie, il ne dit pas ça. Hein? Comme Élisabeth ou Zacharie, là, son inspiration prophétique est sous-entendue. Vous avez tous les événements là, qu'on est en train de voir, mais c'est le travail du Saint-Esprit est sous-entendu dans la vie de Marie. Ce cantique s'inscrit dans le contexte narratif marqué par l'action du Saint-Esprit, dans ce que je viens de dire. On peut donc considérer que Marie fut de manière implicite inspirée par Dieu. Bien que Luc ne l'exprime pas aussi clairement, mais qu'il le fait pour d'autres personnages aussi, comme on l'a vu tantôt, dans le cas de Zacharie et même Élisabeth. On pourrait aller voir d'autres passages, mais Luc 1, là, il nous dit que, vous rappelez, quand est annoncé qu'elle va à Marie, et l'ange annonce à Marie la naissance de Jésus, il dit, troublée de cette parole, elle s'est demandé, qu'est-ce que signifie cette situation? Et l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras le nom de Jésus. Il dit, c'est arrogant, appelez les fils du Très-Haut, le Seigneur lui donnera le trône de David. OK? Il dit, l'ange lui répondit, parce que comment ça va se produire, dit Marie. Et l'ange répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais même avant ça, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dans la vie de Marie. Mais dans ce cas spécifique, l'ange lui dit, c'est pour vraiment la conception de Jésus dans le ventre de Marie. Voici la servante. Mais on pourrait en trouver d'autres aspects aussi. Donc, Luc nous dit qu'après la naissance de Jésus, Joseph et Marie, au moment de présenter son enfant à Jérusalem, là, et offrir un sacrifice même prescrit par la loi, Luc nous mentionne. Il nous parle de qui? D'un personnage qui vient, un autre reste, si on peut dire. Qui ça? Siméon, qui se présente des jours. Il reconnaît le Messie, le Sauveur. Donc l'Esprit était encore sur Siméon, qui reçut des révélations et loua Dieu en tenant l'enfant Jésus dans ses bras. C'est un peu plus court ce passage-là, nous l'avons à l'écran. Qu'est-ce qu'il dit, Siméon? Et voici qu'il avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était quoi? Juste et pieux. Par lui-même? Je ne crois pas. Je crois que l'Esprit déjà travaille dans cet homme-là, il travaillait dans cet homme-là. Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Ce n'est pas de façon ponctuelle que Luc dit, hein, et l'Esprit Saint vient sur lui, hein, un peu comme Zacharie, mais on dirait qu'il était déjà sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par qui? Encore là, le Saint-Esprit, qui ne verra pas la mort avant de voir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Là, il dit, il poussait par l'Esprit. C'est un peu le langage qu'utilise Luc, dans tout, aussi dans les actes des apôtres. Là, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, je continue la lecture, pour accomplir à son égard ce qui était l'usage de la loi, il le reçut dans ses bras, il dit, béni Dieu, et dit, maintenant, maître, tu laisses ton serviteur. Wow, c'est un peu le même langage qu'utilise Marie. Et voici ton serviteur, et peut s'en aller en paix selon ta parole. car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Là, Siméon ajoute déjà le salut, non seulement pour les Juifs, mais pour qui d'autre? On peut dire que le Saint-Esprit est sur Marie aussi? Ça sous-entend, oui. Luc sous-entend ça. Et poussé par l'Esprit, Marie aussi réagit à tout ce qu'elle voit de la part d'Élisabeth aussi, les paroles d'Élisabeth aussi. Ça sous-entend que Marie aussi est influencée ou est influencée par l'Esprit pour prononcer ces paroles-là. Oui, Patrick, c'est ça aussi. Le Saint-Esprit était déjà en quelque sorte en elle, là, parce que Jésus était en elle déjà. Oui, ça on va le voir plus tard, lors du baptême, parce que le baptême vient sur Jésus. Hein. Je ne peux pas dire la même chose de Marie. Non, je ne peux pas dire que depuis le ventre de sa mère, Marie était déjà remplie du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire ça. Mais Marie était une femme pieuse, qui est déjà comme un peu Siméon. Elle attendait la consolation d'Israël. Ok, je crois que tout ce qui attendait la consolation d'Israël, et je pense que le Saint-Esprit œuvrait déjà dans leur vie. Ça, je crois, oui. Mais on va le voir plus tard. Mais c'est pour ça que quand on parle de la régénération, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'il faut naître de nouveau, et c'est ça, pour quasiment être sauvé. Ok? Avoir les privilèges du royaume de Dieu. Mais l'œuvre du Saint-Esprit ne comprend pas juste la régénération, ça comprend d'autres choses aussi dans la nouvelle alliance. Okay? Donc il ne faut pas juste centrer comme la venue la promesse du Saint-Esprit juste dans le fait qu'il régénère le croyant. Il fait plus que ça. Puis on va le voir aussi après la Pentecôte. Okay? Mais on va développer ça tantôt. Tantôt on n'aura pas le temps, mais la prochaine fois. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus. Anne aussi, la prophétesse. Je pense qu'on va rester avec Anne aussi. Agit manifestement sous la direction de Dieu, guidée par son esprit. C'est sûr, il dit qu'Anne était une prophétesse. Et les prophètes parlaient de la part de Dieu, sûrement poussés par l'Esprit Saint, par son esprit aussi. Il avait ici une prophétesse, là, Luc nous dit, Anne, fille de Panuel, et de la tribu de Hazer. Vous voyez là, Luc est en train de dire d'où elle venait vraiment. Donc ça nous montre que les Juifs, ils faisaient encore des recherches, là. Ils savaient exactement de quelle tribu elle venait. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple et servit Dieu, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle survit, elle aussi, en même temps que Siméon. À cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. C'est magnifique, hein, ce que le Saint-Esprit fait ce jour-là, même avant le ministère de Jésus. Hein. Et Anne, on n'a pas de ce que. Luc ne nous dit pas ce qu'elle a prononcé. Mais je crois que ça va un peu dans le même sens que Siméon avait prononcé. Il annonce. Il louait Dieu. Il parlait de qui? De Jésus. Oui, il était en train d'évangéliser pratiquement, à l'avance. De Jésus, ceux qui attendaient la rédemption. Ceux qui attendaient la rédemption. Donc, il y avait encore un peuple. Un reste qui, en quelque sorte, aussi était. Le Saint-Esprit était à l'œuvre sur ces gens-là. Donc, rapidement, le Saint-Esprit agit de manière manifeste et implicite. Il prépare et inspire les personnages, on a vu. Okay? Il révèle la venue du Messie, suscite la louange et la prophétie, et montre la continuité du plan du salut. L'Esprit est déjà à l'œuvre dans l'histoire du salut, avant même le ministère de Jésus. Avant, il était déjà, avant à l'œuvre. On pourrait mentionner ce que Luc mentionne, ces gens-là, mais vous vous rappelez l'évangile selon Jean? Comment ces disciples, ok, ils ont vu le Messie puis ils l'ont suivi? Oui, c'est vrai que ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui appelle, ok? C'est Dieu qui touche. C'est par sa souveraineté. Mais en même temps, ces gens-là, c'est des gens qui avaient cet espoir-là au Messie. Donc, le Saint-Esprit avait déjà une œuvre sur leur vie. Il reconnaît qui? Il reconnaît le Sauveur ou le Seigneur, là, qui reconnaît ça, Nathanaël, vous vous rappelez? Puis les autres aussi, les autres disciples. Jésus, il fallait juste leur dire, suis-moi, puis qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, c'est qui toi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il le suivait, parce que quelque part, il savait que c'était lui. Mais c'est vrai, il n'y avait pas des choses claires. Il fallait tout l'enseignement. Pendant 3 ans, Jésus a enseigné ses disciples-là. Il leur a montré comment l'Ancien Testament annonce même sa venue. On va continuer dans cette étude, on ne pourra pas continuer, mais prions Dieu pour finir. Malheureusement, il en reste encore. Je vais continuer la semaine prochaine en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Évangile selon Luc. On va voir en ce qui concerne aussi le baptême du Saint-Esprit, okay, l'annonce du Saint-Esprit, la Pentecôte. Luc aussi annonce la Pentecôte. C'est bon? Donc prions. Quelqu'un qui pourrait prier, s'il vous plaît, pour finir.